Et ben on est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Merci en cette heure tardive, puisque nous allons faire la clôture de cette première journée. Merci d'être avec nous et puis de participer à ce café littéraire qui sera consacré à la fantaisie. Alors, sous un angle un peu particulier, puisque effectivement, le thème le dit, hein, c'est rien que du bonheur. On va voir justement parmi les quatre auteurs qui sont avec nous, et on est ravis d'avoir parmi ces auteurs Mercedes Lacky, David Anthony Durham, évidemment Marie Caillet et Nicolas Clouzot. On va voir tout simplement. Comment ils en sont arrivés là? Qu'est-ce qui les a menés à la fantaisie? Ce qui les passionne, les fascine dans ce genre particulier? Et puis, après, au gré de la discussion, on verra s'il y a d'autres aspects qui ressortent de tout cela. On a parlé un petit peu avec Mercedes Lacky tout à l'heure. J'espère que vous avez du temps, parce que normalement, Mercedes nous a expliqué que pour répondre à la simple première question, il faudrait sans doute un peu plus d'une heure à elle toute seule. Donc, on va essayer de voir. Donc, je voulais savoir, Mercedes, comment vous êtes venu justement à la fantasy, peut-être d'abord à l'écriture, et puis après, pourquoi ce choix justement du genre fantasy?
Oh mon Dieu! Regardez! Zombies! It's my way of getting out of things. Actually, I began reading science fiction and fantasy very young, 8 or 10. Back in the dark ages, when dinosaurs roamed the earth.
Donc, j'ai commencé à lire de la science-fiction et de la fantasy très tôt, vers 8 à 10 ans, à cette époque noire et ténébreuse où les dinosaures régnaient sur le monde.
There was actually no distinction between science fiction and fantasy in the bookshelves, on the bookshelves and in the bookstores. Science fiction, fantasy, and horror were all the same genre.
À cette époque-là, il n'y avait pas de distinction entre la science-fiction, la fantasy, même l'horreur sur les étagères des libraires. Tout ça, c'était considéré comme du genre.
My father read science fiction and fantasy, and I began picking up his books because there weren't enough books in the library for me.
Oui, mon père lisait de la science fiction et de la fantasy, et donc j'ai commencé à lui emprunter ses bouquins parce qu'il n'y avait pas assez de livres dans la bibliothèque municipale pour moi.
And introducing me to this particular genre was rather like introducing someone with addictive problems to cocaine.
Et effectivement, le fait pour moi de me faire connaître ce genre, c'est à peu près comme faire connaître à quelqu'un qui a un véritable problème d'addiction la cocaïne.
And when I began telling stories, which again was at a very early age, I told them to my friends, I wrote them down and hid them under the bed, I wrote them in my classes, I illustrated them too badly.
Et donc, en ce qui concerne commencer, j'ai commencé à écrire des histoires très tôt. Je les lisais à ma famille, je les lisais à mes amis, je les écrivais, je les cachais sous le lit et je les illustrais même pas très bien.
That was naturally what I would write with science fiction and fantasy stories. And I was fortunate enough when I moved to Oklahoma. I mean, I continued to write, but never got published professionally. When I moved to Oklahoma, I was fortunate enough to meet the writer C.J. Cherry, who served as my mentor, and then was equally fortunate to meet Marion Zimmer Bradley, who served as the first person who ever bought anything from me, which was one of her Dark Horse stories.
Et donc, j'ai continué à écrire à cette époque-là sans être publié, mais j'ai eu la chance, quand j'ai déménagé à Oklahoma City, de rencontrer Sharon Cherry, l'auteur de Chamu, qui a été mon mentor, et également de rencontrer Marion Zimmer Bradley, qui est la première personne à m'avoir acheté une histoire, et qui était une histoire qui se passait dans le cadre de Ténébreuse.
So between the two of them, I managed to get a book into publishable form, 24 rewrites later.
Et grâce à leur support à tous les deux, j'ai fini par avoir un livre qui était sous une forme à peu près publiable, après l'avoir écrit 24 fois, mais il était là.
And the rest is No, an awful lot of time spent with my behind glued to a seat in front of a keyboard.
Et le reste, évidemment, au lieu d'appartenir à l'histoire, ben, ça représente énormément de temps avec la partie postérieure de mon individu collée en face d'un clavier.
Merci beaucoup. L'avis d'Anthony Durham, même question, qu'est-ce qui vous a amené finalement à la fantaisie? Est-ce que c'est quelque chose, comme le disait Mercedes, qui a été naturel d'aller vers ce genre-là ou est-ce que ça a été un peu plus compliqué que ça?
It's complicatedly natural.
C'est compliqué de manière naturelle.
C'est une bonne question donc.
I certainly began reading fantasy when I was a boy, 12, 13, and loved it then. It taught me how to read and made me love reading. But then in college, not so much. I got kind of snobby and was reading just literature. What's the French for, you know, literary fiction? Yeah, the award-winning literary...
Literature blanche. White literature.
Thank you.
Literature blanche. Donc j'ai commencé à lire de la fantasy à 12 ou 13 ans et j'ai tout de suite adoré. Alors j'ai dévoré plein de livres dans ce genre de littérature. Mais après je suis devenue un petit peu snob à l'université et j'ai commencé à lire de la littérature blanche.
And that was okay. And I had a career doing that, and I wrote 2-3 books that are more literary, but I wasn't having fun so much. I wasn't really enjoying it so much. And there was a time I was living in Scotland, and it was science fiction. I read Dune, and I got Dune as an audiobook, so I would take it on walks with me and listen to Dune, and about a partway into that book, I felt this is as smart and intelligent and challenging as anything that I want to read, but it's also crazily exciting, and it's an amazing journey, and that made me want to reconnect with the kid who I had been, who wanted to read about imaginative journeys in fantastic environments, but to do it also as the adult that I am, and to combine them.
Alors oui, c'était très bien, c'était intéressant, la littérature blanche, il n'y a aucun mal à ça. Mais au bout d'un moment, j'ai quand même écrit 2 ou 3 livres de fiction historique, mais j'ai découvert que ça ne m'amusait pas autant qu'autre chose, et c'est là où, à peu près à cette époque, je vivais en Écosse, où j'ai découvert la série Dune. Alors je me baladais avec, je l'écoutais en fait en audiolivre, et je me baladais avec ça, et puis au bout d'un moment je me suis dit mais ça c'est formidable, ça c'est merveilleux, et j'ai été vraiment très pris par ça en me disant c'est très bien fait, c'est très intelligent, mais en même temps c'est vraiment passionnant, vraiment palpitant, et je trouvais dans ce genre de littérature, en fait ça me permettait de conserver un regard d'enfant, tout en abordant la littérature d'un point de vue adulte. Donc ça me permettait de combiner mes rêves d'enfant et également mon point de vue d'adulte.
Merci. And I'm glad I did, because otherwise I wouldn't be an ethnologue.
Et c'est vraiment pour le mieux, parce que si je n'avais pas fait ça, eh bien je ne serais pas à Épinal aujourd'hui.
Mike Ayen, vous vous retrouvez dans ce que vous venez d'entendre chez Mercedes Lackey et chez David Anthony Durham?
Alors oui, je me reconnais dans ce que dit Mercedes, parce que pareil, j'ai commencé à écrire quand j'étais assez jeune, j'ai commencé vers 9 ans. Et c'était une époque où je ne connaissais pas encore la fantasy, où je n'avais pas découvert tout ça. J'ai vraiment découvert cette littérature-là au collège, et c'est à ce moment-là que je me suis mis à en écrire, parce que je trouvais que c'était absolument... C'était passionnant, que ça ouvrait un champ de possibilités immense pour créer son monde, pour vraiment donner des concours à son imagination.
Mais donc pas forcément une enfance bercée, on va dire, dans la SF ou la fantasy au départ.
Pas forcément.
Mais dans la lecture, par contre.
Oui, dans la lecture.
Et justement, vous le disiez, voilà, c'est un champ des possibles.
pourquoi passer à l'écriture alors derrière le fait de lire, ça suffit pas, faut autre chose, faut une...
Alors le fait de lire, c'est déjà très important pour avoir les bases. Ensuite, moi, j'ai toujours eu envie d'écrire, j'ai toujours eu ça ancré en moi. Et voilà, moi, ce que j'aime beaucoup dans la fantasy, par exemple, c'est le côté création des mondes. Il y a toute une partie préparatoire. Moi, j'adore faire les cartes, j'adore inventer la faune, la flore, même faire les personnages. C'est une étape qui est passionnante. Et pour le moment, c'est le genre dans lequel je m'épanouis le plus.
Alors qu'une littérature du réel, quelle qu'elle soit finalement, que ce soit roman historique, roman policier, thriller, là ça vous contraindrait de lire ça comme ça.
J'en lis, mais c'est vraiment pas un genre dans lequel j'écris spontanément. Même mes premiers écrits avant que je découvre la fantaisie, c'était du fantastique, historique. Voilà, moi je préfère penser plus largement imaginaire.
Et nous emmener ailleurs.
Voilà.
Nicolas Cluzot, bah, même exercice. Pourquoi la fantaisie ?
C'est difficile de passer après trois exemples d'expérience aussi intense. Donc moi en fait, par contre, rien ne destiné à la fantaisie. Et en fait même, je n'écris pas que de la fantaisie, j'écris aussi de romans historiques pour la jeunesse. Mais en fait moi, j'ai tombé dedans en fait quand j'ai lu Le Hobbit, comme tout le monde, je pense, à 13 ans. Et c'est dans Les Anneaux juste après, mais je ne me suis pas mis à écrire tout de suite. Non, pas du tout, en fait même, je ne m'imaginais même pas écrire. Mon père écrivait bien un roman, mais je ne pensais pas le lycée en fait. Et en fait je suis tombé dans le jeu de rôle, en tant que maître du jeu. Et en fait, j'ai beaucoup joué de rôle en tant que joueur, mais mon expérience de maître de jeu m'a appris à construire des mondes, construire des personnages, faire des fiches de personnages, préparer des histoires, des scénarios. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à faire des comptes rendus de ces scénarios, des dialogues qui étaient amusants entre les joueurs. Et je me suis rendu compte que ça faisait des histoires. Et donc, l'engagement se construit des nouvelles, des romans. Et un jour, je m'y suis mis, et voilà, je suis tombé comme ça dedans.
D'autant que là, quand on est auteur, on est vraiment totalement maître du jeu.
Totalement, ouais. Et là, il n'y a aucun support pour les joueurs.
C'est une mégalomanie.
Un auteur est mégalomane, de toute manière. C'est évident.
Alors là, on a vu ce qui vous a amené finalement les uns les autres à la fantasy. On a déjà un petit peu entendu les uns les autres nous expliquer peut-être assez largement ce qui vous plaisait tant dans tout cela. Mais moi, j'aimerais savoir justement, comme on l'a entendu là peut-être, ce qui vous amuse vraiment en tant qu'auteur, ce qui vous fait prendre vraiment votre plaisir d'auteur dans le genre de la fantasy. Merci.
By the way, rolled a hit.
Rolled
a hit. What is it in French?
Role playing.
Role playing.
Okay.
Role playing.
Okay. Yeah, lançons les dés.
Roll a
die. I didn't know the expression.
And got a hit.
And got a hit.
Allons-y, on s'est dit.
Allez, ajecta est.
Not that many role players here, obviously.
I'm not afraid.
There are several things that are really a lot of fun about fantasy in particular.
Oui, il y a des tas de choses qui sont vraiment marrantes à propos de la fantasy en particulier. And there are.
Well, one is that although I make sure that my worlds are very consistent and have rules, and the rules are always followed and the rules are logical, I don't necessarily have to know the science that you do to write science fiction.
Et en fait, une des choses les plus excitantes, c'est que même si je m'impose que mes mondes soient bien décrits, qu'ils aient des règles, que ces règles soient toujours respectées, qu'elles soient suivies, je n'ai pas à connaître nécessairement toute la science qui se cache derrière la science-fiction que je fais.
In general, what I like about writing is I like the character building, I like the storytelling, and I really, really, really love being able to make people cry.
En fait, ce que j'adore dans cette histoire, c'est la construction du monde, la construction des personnages, et ce que j'aime vraiment, alors vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, c'est vraiment d'arracher des larmes aux gens.
There was someone who came up to me one day and said, I know what the Lackey formula is. you create compelling characters that people identify with, and then you drop a mountain on them.
Moi, je connais la technique laquée pour que ça marche. Je crée des personnages vraiment intéressants dans lesquels le lecteur va s'identifier et je les plonge dans la.
Now, one of the very fun things that has come up lately that I've been able to do is thanks to the internet and a number of applications that are just shown up in the past few years is I'm able to write simultaneously with my collaborators. We are in the same document at the same time, and I take care of my characters and they take care of their characters, and we end up having, especially when you're doing dialogue, you end up having dialogue that really sounds like people having a conversation or a fight.
Et une des choses merveilleuses qui est arrivée récemment et que je peux faire grâce à Internet, grâce à de nouvelles applications qui viennent d'apparaître, c'est d'écrire, travailler sur un même document simultanément avec l'ensemble de mes collaborateurs. Je m'occupe de mes personnages, ils s'occupent de leurs personnages, mais au moins quand on écrit un dialogue, on le fait en direct et ça sonne véritablement comme un dialogue réellement entre des personnes différentes. Et ça, c'est formidable.
And the other thing about being able to do that in real time with your collaborators is very often the story does not go in a direction that I would have taken it, which makes it better. Because it can get, when you've written 80 books, sometimes you begin to feel a little stale. And it's wonderful to have somebody else's direction on a story.
Un des avantages aussi de cette histoire, c'est quand on écrit un livre en simultané, comme ça en temps réel, avec d'autres collaborateurs, l'histoire ne va pas là où elle serait allée si j'avais été seul à l'écrire. Et quand on a écrit 80 bouquins, comme moi, de temps en temps, on a l'impression que on tourne peut-être un petit peu en rond quelquefois. Et là, en écrivant de cette façon-là, ça ne se produit jamais de cette façon, mais c'est totalement excitant.
There is one thing about that. If you're going to do a collaboration in that way, everybody's ego has to be left at the door. No one's point of view is any more valid than anybody else's, whether they've done one book, no books, or 80 books. Because the new guy may have a way better idea than I do.
Une chose, si vous travaillez dans ces conditions-là, il faut apprendre à laisser son ego et son orgueil à la porte, parce que il n'y a pas une opinion qui est meilleure que l'autre. Mon opinion n'est pas meilleure que la sienne, n'est pas meilleure que celle de quelqu'un d'autre. Qu'on ait écrit 80 livres ou qu'on en ait écrit qu'un ou zéro, parce que si ça se trouve, la personne qui en a écrit zéro, elle a une idée qui est quand même vachement meilleure que la mienne.
That good enough for you?
Devine, Anthony Durham, vous avez envie de faire pleurer vos lecteurs aussi?
Do you want to make them cry?
Like it.
Sometimes, yes.
Parfois, oui. Plus sérieusement, qu'est-ce qui, justement, comme Mercedes, vous plaît tant dans le fait d'écrire de la fantasy?
I think I'll answer in a different way. There are many things I like about writing fantasy, but what occurs to me to say is how much I like having joined a community, both of writers and of readers of fantasy.
Ma réponse serait peut-être un petit peu différente de celle de Mercedes. Il y a beaucoup d'aspects de la fantasy qui me plaisent énormément, mais je pense que ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir rejoint une communauté d'écrivains et de lecteurs.
A few years ago, I was a historical and literary writer, and I didn't really know anyone in the fantasy world.
Alors, il y a quelques années, moi j'écrivais de la fiction historique et je ne connaissais personne dans le milieu de la fantasy.
And again, what was the word for the literary
literature blanche? White literature.
White literature?
Yes, what's white? It's pure.
It's white. No, it's white.
I have a problem with that.
It's white. It's white. It's white
good
because
one.
There's no cover. There's no picture on the cover. The covers of white things are really white paper with just the name of the author in the book.
I see.
That's why it's called white.
Oh.
It has nothing to do with race, gender, or whatever. It's just the cover.
This
is not white. There are people in there.
There are white people, but anyway. but there, in writing in that genre, which is a genre, the audience can be pretty... There's a distance between the author and the audience. In white literature.
Donc, en littérature blanche, il y a un gouffre qui sépare le lecteur. Enfin, il y a une grande distance hein, qui sépare le lecteur de l'auteur.
But since becoming a fantasy and science fiction writer, I go to conferences and meet people all the time. I meet many, many writers and interact with them.
And your fans get in your face.
And fans come into your face and speak to you. And okay.
Mais depuis que je travaille dans le genre de la fantasy, en fait, c'est complètement autre chose. Alors, je suis invitée à plein de festivals, de salons du livre, comme ici, et je rencontre plein d'autres écrivains dans le même genre. Et aussi, il y a les lecteurs qui viennent me dire vraiment exactement ce qu'ils pensent, mais vraiment en pleine face.
And with the internet, and having a website and a blog and Facebook, people are writing to me, you know, all the time and commenting on my books, and I feel like I have a lot of friends that I didn't have before, and that's particular to fantasy, I think. Or to other genres as well, but for me, it's fantasy was my entry into that.
Et avec l'internet, eh bien, il y a plein d'amis, plein de gens qui viennent sur ma page Facebook ou qui viennent sur ma page web. Et c'est vraiment extraordinaire parce que tout d'un coup, j'ai plein d'amis. Et donc pour moi, ça a été une véritable découverte. Et c'est peut-être que ça se produit dans d'autres genres de littérature, mais pour moi, le déclic s'est fait avec le fantasy.
Merci. Vous avez commencé les deux un peu à répondre, mais moi, je suis très surpris quand je vous entends parler tous les quatre. Je m'attendais à ce que... Oh, mais moi, ce qui me plaît quand j'écris de la fantaisie, c'est que d'un seul coup, d'un coup de plume, je peux inventer quasiment ce que je veux, créer de la magie, sortir des situations incroyables en combattant des dragons, enfin, voilà, des trucs. Vous êtes restés très terre-à-terre, finalement, dans ce que vous nous avez dit tous les deux.
Alors, c'est vrai qu'en fantasy, il y a la possibilité d'utiliser la magie. Et moi, justement, ce qui m'a beaucoup plu pour cette trilogie-là, c'était justement de donner un pouvoir à mon héroïne, mais un pouvoir qui justement, est plus un handicap qu'autre chose. Pour moi, c'était plutôt pas mal d'inverser cette tendance-là et de voir comment elle allait se débrouiller, justement, avec ce petit pouvoir. En fait, c'est l'héritière d'une dynastie qui a un pouvoir qui est changé en créature ailée. Et mon héroïne a le pouvoir de se changer en papillon, donc pas de chance. C'est pas un dragon, c'est pas un aigle. Elle doit se débrouiller comme ça avec ses petites ailes. Et pour moi, c'était un des aspects qui me plaisait bien, mettre un petit peu mon héroïne à l'épreuve. Puis bon, il y avait des passages drôles aussi à écrire avec ce pouvoir-là. Puis pour rebondir sur ce que disait Anthony, un des plaisirs de l'écrire en fantasy, c'est justement le contact avec les lecteurs. J'avais cet après-midi, j'ai rencontré une classe en fait de 3e et 4e. Et c'était vraiment un bon moment parce que c'était un moment un peu privilégié. Alors au début, il me disait que justement, l'auteur, c'est une personne assez abstraite, justement parce qu'on ne voit pas son visage, la plupart sont assez distraits dans les médias, etc. Et justement, pouvoir le voir en face, c'était pouvoir voir que bah, voilà, c'était une personne normale, finalement, et qu'on pouvait vraiment échanger là-dessus. Et pareil, il y a les réseaux sociaux. Qui sont pas mal pour vraiment quand ils ont des questions, qui viennent nous demander et qui ont un véritable échange, que ce soit pas juste
D'autant que, là encore, pour faire une différenciation avec la littérature blanche, donc, on est vraiment dans un monde auquel il faut adhérer finalement, puisqu'il est totalement différent de celui qu'on côtoie tous les jours au quotidien. Ça aussi, ça doit, j'imagine, vous intéresser de voir comment vos lecteurs acceptent le monde que vous leur proposez.
Oui, c'est intéressant de voir les différents âges des lecteurs, de voir comment ils réagissent. Alors il y en a qui sont très surpris parce qu'ils s'attendaient au contraire à une magie beaucoup plus présente. Dans l'univers, la magie c'est particulier parce que les humains n'habitent pas. Elle est dans des lieux très particuliers. Et du coup, voilà, c'est...
Oui, par rapport au lien justement à l'adhésion au monde que vous créez.
Oui, voilà. C'est intéressant de voir justement comment ils apprennent le monde et comment ils apprennent différemment les personnes.
Ils vous en apprennent sur le monde que vous créez vous-même.
Est-ce qu'on apprend sur le monde?
Pas forcément physiquement, mais peut-être dans dans une échelle de valeur, dans la manière dont il le reçoit, mais finalement il le perçoit différemment.
Ah oui, il y a des façons différentes de percevoir, par exemple, la traversée des bois dans le tome 1. Alors, il y en a qui trouvent ça très long, et, parce que bon, il ne se passe pas grand-chose, c'est un lieu magique, justement, qui a un prédit de magie, et c'est une magie qui est assez silencieuse et très associée à la lumière. Alors, il y avait vraiment deux catégories, il y avait ceux qui trouvaient ça trop long, et il y avait ceux qui avaient beaucoup aimé ce passage-là, parce que justement, c'était un passage assez contemplatif. Donc oui, voilà, il y a aussi la manière de percevoir les ruines, il y en a qui adhèrent plus ou moins vite, parce que j'avais pris le parti. J'avais le parti pris de créer une anti-ruine au départ qui évolue au fur et à mesure.
Nicolas le Merveilleux, alors, est-ce que c'est pas aussi justement à un moment un peu un trip justement de jouer avec des choses comme ça?
Bah oui, en fait, moi je voulais dire que quand j'écris, je suis en contrôle total et donc je suis très mégalomane et égoïste. Et je me fais un plaisir intense avec
vous. Vous êtes Dieu?
Comme quand tu es un maître de jeu, en fait, de jeu, on suit des règles quand même. On suit des règles, il y a des limites à ne pas franchir. Mais quelque part, on se fait plaisir. Parce que le maître de jeu qui construit une histoire pour ses joueurs, par exemple, ou un écrivain qui écrit une histoire avec ses personnages, il faut qu'ils prennent plaisir, sinon ça n'a pas de sens. Même si c'est un métier, il faut qu'ils prennent du plaisir. Et sa question, c'était
l'irruption du merveilleux, ou en tout cas la manière dont vous le traitez, parce qu'on en revient au point de départ, c'est que finalement, moi je suis surpris tous les quatre, c'est pas la première chose que vous nous avez dit.
Ben, en fait, moi, j'ai toujours eu un regret de ne pas pouvoir apprendre bien sciences et mathématiques. J'ai toujours été mauvais. Hein. J'ai jamais fait d'efforts vraiment non plus, et j'ai regretté plus tard. Et donc j'ai créé mes univers, mon multivers de fantasy autour de mécaniques physiques qui étaient vraiment, comme disait Mercedes, il y a des règles, des limites, des cohérences à garder. Et la magie suit ces règles. Et permet pas de faire n'importe quoi. Donc la magie est un coup. C'est-à-dire, dès qu'on commence à utiliser la magie, on se fatigue, on peut en mourir. Donc pour en venir au fait, j'essaie de créer des mondes de manière à mettre des références aussi de notre monde à nous, mais historique. Par exemple, l'île des deux romans qui sont là, c'est une île qui ressemble beaucoup à l'Irlande, un peu fantasmée, mais en Irlande, puis la mythologie nordique, de celtique, pardon. Et aussi un peu de mythologie turque que j'ai importée à l'intérieur de l'île. Et donc j'essaie de garder des références quand même, historico-culturelles, qui appartiennent à notre monde à nous.
C'est amusant parce qu'on a tendance à penser que la fantasy est un genre sans contrainte, justement.
Ah, mais c'est sans contrainte, je veux.
Il y a des règles, il y a des contraintes.
Je ne suis pas d'accord sur le fait que la magie pourrait résoudre tout. Que nous, deux feux pour résoudre tous les problèmes. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est plus subtil que ça, qu'il faut utiliser la magie.
Ce n'est pas un Deus Ex Machina.
Non, c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est bien un Deus Ex Machina, en fait. J'aime bien être surpris en permanence parce que je lis, et donc parce que j'écris. Donc, en me faisant plaisir, quand je me surprends moi-même en écrivant, même en suivant un plan, je trouve énormément de plaisir à écrire. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque chapitre, me surprendre que j'ai compris.
Mercedes, la question du merveilleux chez vous, alors. Comment est-ce que vous abordez cette question-là? Comment est-ce qu'elle vous concerne? Est-ce qu'elle vous motive? Est-ce qu'elle vous oui, est-ce que finalement ça fait aussi partie des choses passionnantes du métier d'écrivain de fantasy?
Well, I have more than one magic system.
J'ai plus d'un système de magie en place.
It really depends upon what series of books I'm working in. All of them have a fundamental source for energy, if you will.
Mais ça dépend de quelle série, la série dans laquelle je suis en train de travailler. J'ai un genre de magie différent par série. Il y a une espèce d'énergie à la base, mais après...
The source is different in every series, though. Part of the fun is coming up with a different way of doing it for each different series, just because it gets really old doing the same thing over and over and over again.
Donc cette source d'énergie varie suivant les séries, et l'aspect amusant, c'est d'en trouver une nouvelle version à chaque fois Parce que ce qui finit par être fatigant, dirons-nous, c'est de faire toujours la même chose, et toujours le même type d'énergie, et toujours le même type d'origine de l'énergie.
I had a thought and it escaped me.
I'm not going to translate that.
and you wouldn't be able to translate my train of thought, just went off the rails. That's a pun unique to English. I remember now. One thing that I find really interesting is how to do more with less. I find it most interesting of all when you can have the magician that has very little power using it cleverly so that he actually accomplishes more than someone who has so much power they don't really have to think about what they're doing.
Mais ce que je trouve particulièrement passionnant, c'est d'essayer d'en faire le maximum avec le minimum à la base, et en particulier d'avoir des magiciens qui ont un pouvoir qui n'est pas nécessairement très grand, mais qui l'utilisent intelligemment et qui arrivent à accomplir beaucoup plus de choses qu'un magicien qui a tellement de pouvoir qu'en fait il ne se pose pas tellement la question de savoir comment il va l'utiliser, il en a trop à sa disposition.
I kind of like doing small stories inside the big story. There may be a huge cataclysmic war going on, but you don't necessarily see that big war except through the viewpoint of a few key characters who may not be that important, and yet in the outcome they are.
Et j'aime bien aussi raconter une petite histoire à l'intérieur de la grande histoire, et il peut y avoir des choses extrêmement spectaculaires, des guerres, des carnages, etc., mais on ne le voit pas nécessairement en tant que tel. On voit le destin de personnages qui, au premier abord, apparaissent insignifiants, mais qui, à la fin, se révèlent fondamentaux, cruciaux pour la suite de l'histoire.
There are two things, however, that I loathe.
Il y a quand même deux choses que j'adore.
One is maps.
Loathe. Hate. La première, c'est
maps.
Les cartes.
I hate maps.
Oui, je déteste les cartes.
The other, maps absolutely baffle me. I find when I'm writing, I just don't want to have to think about how far the distance is between something.
Et une chose aussi, comme je déteste les cartes, je ne veux pas, quand j'écris, me poser la question de savoir à quelle distance est-ce qu'il se trouve exactement de l'endroit où ça va devoir se passer.
C'est pas avec les maths et la science que vous êtes fâchés, c'est avec la géographie.
Well, you're in trouble not with math and science, but with geography.
Very much so, yes. Oui. The other thing that I absolutely loathe is having to do a book with a cast of thousands. I have no idea how Robert Jordan does it, or did it. I have no idea how George Turtledove does it.
Nobody knows it.
Or George Martin does it. I have no idea how Harry Turtledove does it. I can't keep track of all these people.
Une chose que je ne sais pas faire aussi, que je ne peux pas faire, c'est faire un bouquin avec un million de personnages. Je ne sais pas comment George Martin fait. Moi j'arrive pas, je n'arrive pas à me souvenir et à savoir ce que font tous ces gens-là en même temps. C'est pas possible.
Unfortunately, I have a collaborator, James Mallory, who does that very well, so I just leave it all to him.
Oui, heureusement, j'ai James Mallory qui est un collaborateur qui fait ça très très bien, donc je le laisse faire, il se débrouille.
David Anthony Durham, même question sur le merveilleux, justement. Est-ce que, et, d'autant que vous êtes quand même dans un univers assez qui traite de sujets assez graves, assez sérieux, est-ce que c'est pas un peu par moment un peu de bouffée d'oxygène aussi de merveilleux pour vous? Ou pas d'ailleurs.
Oui.
That's French for yes.
But I should begin with saying that I like maps.
Et je tiens à commencer par dire que j'aime beaucoup les cartes, moi.
And I'll answer the question with a continuation on the affirmation of maps.
Et je vais répondre en parlant bien sûr de cartes, parce que je veux insister sur l'aspect carte.
One of the things that really excites me about the trilogy that I wrote and the books that I may write in the future about this world of Acacia is that it began in the known world and there was a map of the known world. And the second book, so much of what happened and affected the known world happened across an ocean, off the map. And the second book took the some of the characters, at least, over that ocean and into another land. It's the other lands.
Alors, moi, ce qui m'intéresse, donc, c'est la question des cartes, et dans ma trilogie, j'en ai beaucoup parlé, ça a été très important, et je ne sais pas encore où ça va me mener avec Acacia, on verra dans l'avenir, mais j'ai des idées là-dessus. Et donc, dans le premier volume, on voit un monde connu, d'accord, et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui vont se produire autour de ce monde connu, mais il y a aussi des événements qui vont se produire au-delà de l'océan, dans le monde, dans d'autres terres moins connues. Et donc ça sera le deuxième tome où on va arriver aux terres étrangères.
But I read that first book without exactly knowing what was going to be found in those other lands. And in the second book, getting there and detailing it through the eyes of a character who is seeing this new place was very exciting. It's discovery of a new world. It's sailing across the Atlantic and discovering the Americas. It's that sort of thing. And that for me was very exciting.
Alors, dans le premier roman, quand je travaillais sur cette idée, je ne savais pas encore ce qui allait se passer dans le deuxième tome. Et dans le deuxième tome, eh bien, je l'ai abordé du point de vue d'un personnage du premier tome et qui va partir à la découverte d'un nouveau monde et qui va traverser l'océan, mettons l'Atlantique, et qui va découvrir l'Amérique. Alors ça, c'était vraiment formidable pour moi, c'était vraiment stimulant.
But on the western boundary of where I went with the first three books, there's this huge mountain range. Okay.
Mais à la frontière de l'Ouest, il y a une grande chaîne de montagnes.
And what will excite me and maybe bring me back to this world in the future is the notion of, but if I take the globe and spin it and figure out what's on the other side of those mountains, I find that exciting in fantasy.
Et ce qui m'intrigue beaucoup, c'est la possibilité de, dans l'avenir, de prendre le globe terrestre et de regarder, peut-être de le faire tourner et d'essayer de voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette chaîne de montagnes.
Mais sinon, sur la magie, vous ne voulez pas me répondre.
And he doesn't want to answer on magic and on wonder.
On the other side, around that globe, there's magic and wonder. I need to discover it.
You as a magician.
The discoverer, but not the magician.
I am the witness of the magic.
Et de l'autre côté de la chaîne de montagne, il y a de la magie, il y a du merveilleux. Vous êtes le magicien, pas nécessairement, je serai le découvreur de la magie et du merveilleux qu'il y a de l'autre côté de la chaîne de montagne.
Un autre aspect sur la fantasy, c'est quand même qu'en général, ce sont des histoires assez violentes. Comment est-ce qu'on gère ces questions de conflits, de combats, de choses qui parfois peuvent être assez rudes?
Le conflit fait partie de l'histoire humaine depuis le début des temps, donc je pense que c'était partie intégrante de tout récit, et la fantaisie s'y prête. Ça peut donner naissance à des histoires épiques, à des combats épiques. J'aime beaucoup les combats, la guerre.
Dire que quand vous écrivez pas des romans de fantasy, vous écrivez des romans de piraterie, de choses comme ça.
Exactement, oui, j'écris un roman de piraterie, combat naval.
Aussi. J'imagine c'est juste une croisière tranquille.
Il y a un meurtre à bord, tout ça, pas bon. Donc j'aime beaucoup en fait mettre les personnages en conflit les uns avec les autres. Hein. Et créer dans chaque camp, en fait, dans chaque camp différent qui existe, des personnages sympathiques, enfin, auxquels on pourra s'identifier, qui ont chacun leur raison de faire cette guerre, ou de participer à cette guerre, ou à ce conflit, cette résolution d'énigmes, ou de comment soigner une maladie, par exemple, qui tue tous les magiciens de l'Orient dans cette trilogie, enfin, dans cette tétralogie.
Et justement, vous qui venez du jeu de rôle, finalement l'affrontement, ça se résout en jetant des dés. Est-ce que justement il y a aussi un plaisir d'écrivain à donner corps à ces affrontements véritablement, à les détailler?
Oui, parce que j'aime beaucoup vivre ce que j'écris, donc je rentre dans la bataille en fait, quand je fais une bataille, ou je rentre dans un duel quand il faut faire un duel. Pour revenir au jeu de rôle, les règles qui permettent de régir les combats, on ne les trouve pas dans les livres, hein, ça n'a rien à voir. Dans les combats, on les décide en fait. Ou on ne décide pas, en fait, ça dépend. Il y a des plans qui sont établis, mais quelquefois les personnages, ça se trouve, on a envie de changer sa destinée, on a une autre idée, et les combats peuvent aller d'un côté comme de l'autre en fait.
Marie, sur cette question justement.
Alors, pour parler de l'affrontement, pour moi il y a deux sortes d'affrontements, il y a l'affrontement physique et aussi l'affrontement contenu. Ça, c'est une partie que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est surtout une partie qui est visible dans le tome 3 qui n'est pas sorti, donc je ne peux pas en parler. Mais il y a vraiment les deux camps adverses qui essayent à tout prix de se doubler. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez génial à écrire. Et ce qui est intéressant aussi dans les combats armés, c'est que moi personnellement, je ne sais jamais vraiment comment il va se finir. C'est-à-dire qu'il arrive que des fois, j'ai un personnage qui meurt, alors que dans mon scénario, il est censé continuer l'aventure à l'infinir. Et donc ça, c'est un côté imprévu qui est très intéressant. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, les personnages, on a beau les créer, on a beau leur faire les décider, des fois, ils ne sont pas d'accord.
Gardez le micro parce qu'il y a quand même une question spécifique qui vous concerne, Marie, c'est que vous adressez à un public jeunesse. La question de la violence, c'est quelque chose que vous posez sur un plan, j'allais dire moral, c'est un peu fort, mais c'est une question sur laquelle quand même vous réfléchissez, voire peut-être vous vous auto-censurez.
Alors non, pas du tout, c'est juste que, en fait, ça dépend de l'intrigue. Le tome 1, bon, bah, c'est une chasse au trésor, donc il n'y a pas nécessairement d'affrontement, sauf à la fin. Ensuite, bon, c'est vrai qu'il y a un public jeunesse, donc je ne pense pas que je m'auto-censure, parce que je ne suis pas non plus du genre à aller dans le corps tout de suite. Mais...
Disons que pour l'instant, les parents ne viennent pas vous voir en vous hurlant dessus, en vous disant « Mais qu'est-ce que vous faites là à mon enfant ?»
Ah non, ça va.
Donc c'est que le bon compromis a été trouvé.
Voilà, et puis en même temps, il faut quand même donner des crédibilités aux méchants. Par exemple, il y a les chimères qui interviennent dans la suite, et là, c'est des monstres qui sont liés génétiquement aux méchants, qui est lui-même lié à la reine qui le dirige. Donc là, c'est assez sournois, en fait. Et je pense que c'est plus sournois que violent, parce qu'en fait, on pense qu'il y a un seul adversaire, mais en fait, c'est tout un groupe. Et voilà, et puis les chimères ont la capacité de se déplacer très vite. Donc voilà, il y a tout le côté où ils essayent absolument de se doubler, les adversaires ne sont pas là où on les attend.
Ça se met en place progressivement.
En fait, c'est le plaisir de lecture et d'écriture, en fait, c'est de ne pas savoir exactement à l'avance tout ce qui va se passer. Même si on fait un plan, il peut changer pendant l'écriture.
Mais pareil, vous ne vous dites pas, oula, c'est un peu trop brutal ce que j'ai écrit, c'est un peu trop... Ouais.
Non, c'est la réalité.
C'est la réalité du monde.
La réalité du monde, nous, on écrit, le monde aussi, on voit tous les jours, il ne faut pas non plus se voler la
face.
Mais je vous en prie.
I was 18, I think, when I read The Mist of Avalon. Mercedes mentioned Marion Summer Bradley. And there is a scene in there, and I haven't read it since, when there's some a banquet or something, and there's an act of violence that completely changes. It was a complete surprise. And I remember going, wow, just being hit by the impact of what happened when that axe fell down, and how much it changed the players and the situation. Do you know what I'm talking about?
C'est les
brumes d'Avalon, simplement. Alors, j'avais 18 ans quand j'ai lu Les Brumes d'Avalon. Vous avez parlé tout à l'heure de Marion Summer Bradley, elle est l'auteur de ce merveilleux roman. Et il y a une scène dans le livre, la scène du banquier. Alors, c'est vraiment tout gentil, et puis il y a un moment de violence extrême, et c'est à la scène du banquet, et quand tombe cette hache, c'est un moment vraiment tellement violent, et j'ai été complètement renversée par cette violence.
And reading George R. R. Martin, I remember one and then another, and another time of getting completely floored by the fact that this thing just happened.
No,
this person
is
dead. How could he be dead? Or how could he be paralyzed? He's a little boy.
No spoiler.
Okay.
et la même chose quand on lit George Martin, moi je me souviens d'avoir lu des passages où on se retrouve mais complètement anéanti. Comment ça se fait qu'il est mort? Comment ça se fait que ce pauvre petit garçon se retrouve paralysé?
But in each case, I was so transfixed by those events, and I hope that I do that in my own writing as well. I'm thinking in the middle book, there is a scene where a character thinks he has everything. He kind of has everything just where he wants it, and he is in control on one page, and on the next page, his head has been cut, like sliced off. And he's so not in control, and everything has changed for the rest of the characters around. I think that's engaging fiction, to see how they deal with that sudden change. And violence is one of the things that brings that about.
Et j'étais tellement marquée par ce genre de passage que j'ai essayé de faire un petit peu la même chose, moi, dans mon livre, donc dans le second livre dans ma trilogie. Il y a un personnage, il arrive à un point dans l'histoire où il a tout ce qu'il veut, il contrôle bien toute sa vie, tout va bien. Ça, c'est sur une page, et à la page d'après, il se retrouve la tête coupée. Et donc, ça ne marche plus comme il veut, et tous les personnages autour de lui sont affectés par cette scène.
Est-ce qu'il marche encore après avoir la tête coupée?
He didn't stay upright very long.
Il n'est pas resté debout très longtemps après. Donc.
D'autant que chez vous, la violence, elle est aussi dans les thématiques que vous choisissez d'exploiter et de traiter. Quand on parle d'esclavage, c'est violent en soi.
Oui.
Je rappelle que l'objectif est que David Anthony Durham soit bilingue français-anglais à la fin de ce festival.
Merci.
Hey, pour rien, ça grand pas. Non mais.
Oh, I really have to answer that. Yes, I had my approach to writing fantasy was very in line with my approach to writing historical fiction, if it was going to be for adults.
Si je vous demande ça, c'est parce qu'on a parfois l'impression, peut-être en tout cas au départ d'un roman de fantasy, qu'on est dans un monde un peu de contes de fées. Là, chez vous, c'est clair que c'est vrai qu'il y a des débats.
I reject that categorization altogether. I think fantasy is any writing that engages with the fantastic in some way or another. So Toni Morrison won the Pulitzer Prize and eventually the Nobel Prize for Beloved. Beloved is a ghost story. Mm-hmm. It's the story of a house that is haunted and a child that comes back from the dead, manifested in a new body. Am I going too far?
No. Yeah.
Okay. it's white fiction. But
Do not be afraid of the word.
But it's completely fantastical as well. And so many other classics. So we, Dickens, Christmas Carol.
Yeah.
That's urban fantasy.
Yeah, exactly.
And I would say Beowulf is classic, is the beginning of the fantasy genre. First off, there's... Yeah,
alors, il n'y a absolument rien du conte de fées dans ce que moi, j'écris. Alors, je pense qu'on peut écrire de la fantasy sans parler de conte de fées. Hein. Alors, mais par contre, vous savez, Toni Morrison, qui a eu le prix Nobel et également le Pulitzer d'abord pour son roman Beloved.
Oui, qui a été traduit par Beloved.
Beloved,
c'est le même titre.
Et donc le titre français est le même, en français. Et donc cette histoire, en fait, de l'histoire de son roman, c'est un enfant, un fantôme. C'est un enfant qui revient dans le royaume des vivants, qui vient du royaume des morts. Donc il y a quand même un élément important de fantasy dans ce roman. Et si on pense au conte de Noël de Dickens ou Beowulf, alors Beowulf, c'est l'équivalent, si vous voulez, de la chanson de Roland chez les Anglais. Et donc dans Beowulf, il y a vraiment une part de fantasy très 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 importante. Et donc la fantasy a toujours existé finalement.
Dans les cycles arthuriens, etc. Enfin, voilà, il y a
effectivement un genre. Absolument. And so, with my notion that fantasy are any stories that engage in some significant way with the fantastic, that can be complete entertainment. It can be for kids. It can be very challenging as well. But to me, it's all fantasy. There may be subgenres, but they're all part of the fantastic.
Alors, il y a plusieurs aspects de cette littérature. On peut peut-être parler d'un sous-genre de littérature, mais il y a de la fantasy pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes. En fait, il y a plusieurs catégories dans la grande famille de la fantasy.
Mercedes Lakin.
Mathieu.
Je ne suis pas un procureur, je ne suis pas un juge. Ne me regardez pas comme ça à chaque fois que je vous pose une question.
He's not a procureur, he's not a judge. So don't look at him like that when he's asking a question.
La question de la violence. La question de la violence, est-ce que, pareil, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre travail et comment justement vous gérez ça?
Well, I absolutely do not reject violence. Although one of the series that I do, which is the Fairy Godmother series, is very light and is meant to be funny, there are a number of books that I've done where the whole series starts out with, God, I cannot say this, it's obscene.
Yes, come on. Everybody's listening.
The whole thing starts out with everybody and everything is absolutely fucked.
En fait, je ne rejette absolument pas la violence. Même s'il y a une série que j'ai écrite qui est l'histoire de la bonne fée, enfin, la bonne marraine fée, qui est censée être light et quand même amusante, il y a la plupart des livres que j'ai écrits où ça commence avec la totalité des personnages qui sont, alors là, il faut que je prenne toutes les précautions nécessaires, qui se sont fait littéralement baiser.
Mais je vous parlais violence, je vous parlais pas sexe.
She was he was mentioning violence, not sex.
So was I.
C'est terrible votre réponse.
But I used to participate in reenactment fighting with swords and axes and things like that. I'm quite used to how it feels. I've been of the opinion for some time that it is a very good idea if you're going to write scenes of warfare, you should have some idea of what the warfare is like, although I would not go nearly as far as a friend of mine named Sean McMullen, who is a writer in Australia.
J'ai participé à des reconstitutions historiques de batailles en vraie grandeur, et donc je me suis servi d'une hache, d'une épée, et de choses de ce genre, et j'ai toujours estimé qu'il était important pour un auteur qui écrit ce que j'écris de savoir effectivement ce que c'est, d'en avoir une expérience physique soi-même, parce que sinon on n'est pas capable d'aller aussi loin et d'être aussi réaliste que ce qu'on fait, que ce que j'ai fait dans les histoires que j'ai racontées.
Sean went a little far as I'm concerned in getting the realism of things.
How did it?
Sean McMullen was writing a fantasy book in which his hero was a common soldier in the Crusades. So Sean donned full Crusader armor and marched across the outback with only the water and food that he could carry for a month.
Sean McMullen était en train d'écrire un livre. C'est l'exemple des choses où il dit qu'il a quand même été un peu loin, peut-être pas. Il était en train d'écrire un livre dont le héros était un soldat des croisades. Et ben, il s'est procuré une tenue de soldat des croisades et il est allé marcher dans le désert australien avec juste l'eau qu'il était capable de transporter. Et il a fait ça pendant un mois.
That's not getting into realism, that's sadism. Or perhaps masochism.
Ce n'est pas vraiment faire preuve de réalisme, c'est du masochisme absolu.
Je ne sais pas si mes questions vous effraient, mais moi, vous commencez à me faire peur.
I don't know if your questions are frightening you, but you're frightening him.
But yes, I agree with both David and
Nicolas.
That certainly violence, depending upon who you're writing it for, because you want to be careful with young adult, is a very real part of any fantasy universe, whether it be physical or emotional or mental violence, because that's the human condition.
Oui, et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Anthony ou ce que dit Nicolas, c'est que quel que soit le genre de violence qu'on écrit, que ce soit une violence physique, une violence mentale ou une violence de sentiment, c'est quelque chose qui fait quand même partie du monde dans lequel on vit.
Ben, ça serait une belle conclusion, puisqu'on arrive au terme de ce café littéraire. Merci à vous quatre pour ces explications. On pourrait évidemment faire durer la conversation. Moi, ce que je vous invite, c'est à aller retrouver les auteurs, peut-être pas forcément tout de suite, enfin quoi que, peut-être qu'ils vont retourner un peu sous la bulle du livre, mais en tout cas, dans les jours qui viennent, nous avons encore jusqu'à dimanche pour aller discuter avec nos auteurs et puis pourquoi pas approfondir. Vous l'avez entendu, ils sont aussi friands des retours, hein, même si vous connaissez leur ligne, n'hésitez pas à venir leur en parler. Et puis juste une précision, parce que voilà, c'est quelque chose d'important. Beaucoup d'entre vous souvent disent « Ah oui, mais il y a deux cafés littéraires en même temps qui m'intéressent, comment je fais ?» Bah, c'est très simple, les cafés littéraires, ils sont enregistrés et ils sont mis en ligne extrêmement rapidement sur le site d'ActuSF. Donc par exemple, les précédents cafés littéraires de la journée sont déjà en ligne. Donc si jamais vous vous rendez compte qu'il y a deux cafés littéraires qui vous intéressent, vous ne vous inquiétez pas, hein, vous allez en voir un, vous choisissez bien, celui que vous voulez voir en live, et puis l'autre, vous l'écoutez après, soit pendant la durée du festival, soit peut-être tranquillement après, histoire de conserver un petit bout d'imaginal chez vous. Mais n'oubliez pas ça, c'est important. Merci à ActuSF d'ailleurs de faire ça, puisque ça permet également de faire prolonger le festival tout au long de l'année, et pas simplement sur les 4 jours où nous nous retrouvons à Épinal. Merci beaucoup.
I didn't